Bonsoir, et maintenant, quelle sera l'ampleur de la mobilisation des Gilets jaunes? C'est la question posée au lendemain de l'interview présidentielle et des annonces du Premier ministre. Quelles sont les réactions au langage vérité d'Emmanuel Macron qui reconnaît ne pas avoir réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants? Nous ferons le point complet dans les informés à l'avant-veille de la mobilisation contre les hausses de taxes sur les carburants. Le Brexit, de tous les dangers à Londres, Theresa mais ne démissionnera pas et défend avec fermeté son projet d'accord de sortie de l'Union européenne malgré le départ de 4 ministres et une séance tendue devant la Chambre des communes. Un maire de France sur 2 ou presque ne se représenterait pas en 2020. C'est ce que dit une enquête du Cevipof. Les maires dans les villes et les communes ont-ils le blues? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Jeannick Halimi.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France, partenaire des informés. Avec nous également, bonsoir à vous, Agathe Cagé.
Bonsoir.
Politiste, présidente du cabinet de conseil Compass Label. Vous avez publié chez Fayard « Faire tomber les murs ». Cela parle de politique publique, c'est bien ça, hein?
Comment mieux faire les politiques publiques en faisant mieux circuler les idées.
Ah, c'est un sujet d'actualité avec nous également. Bonsoir à vous, Aurélie Trouvé.
Bonsoir.
Porte-parole d'Attaque, l'organisation altermondialiste. Et notre autre partenaire des informés, bonsoir et bienvenue, Pascal Richer.
Bonsoir.
Directeur adjoint de l'Obs et cofondateur de Rue 89. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Quelle sera l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes samedi? 1500 actions sont attendues sur l'ensemble du territoire. Un peu plus d'une centaine seulement auraient été déclarées. Les annonces mises sur la table hier matin sur RTL par Édouard Philippe et les mots en direction des Français d'Emmanuel Macron sur TF1 hier soir en direct du porte-avions Charles de Gaulle n'ont pas découragé le mouvement. Bien au contraire, la mobilisation reste intacte. Écoutez ces témoignages.
Par semaine, je m'en sors à peu près à 150 euros. Ouais, 150, 200, parce qu'on a plusieurs véhicules. Donc au moins 200 euros par semaine, minimum. Avant, c'était 300 euros, 350 euros par mois. À l'heure d'aujourd'hui, pour gagner autant, il faut travailler plus, voilà. Pas de repos. Il faut se lever, travailler, et travailler encore et toujours, voilà. Monsieur le Président veut favoriser l'entreprise et le travail, mais il nous surtaxe et on ne s'en sort pas.
Monsieur Macron dit qu'il ne taxe, il détaxe le travail, mais moi je vois que comme tous les gens qui se servent de leur voiture pour aller travailler, et ben le travail est taxé. Donc ils enlèvent d'un côté pour reprendre de l'autre bien plus. En général, je ne manifeste pas, mais là trop c'est trop.
Voilà donc ces témoignages recueillis dans le Bordelais. Jeannick Halimi, vraisemblablement, plus rien ne peut stopper ce mouvement désormais.
Ne peut stopper ce mouvement pour
ce
pour
qui est
samedi.
De la mobilisation du samedi.
Du 17 novembre, oui, absolument. Les gens semblent effectivement très remontés. Maintenant, combien seront-ils et quelle est leur force de blocage? C'est peut-être un peu...
Impossible à jauger. Hein.
C'est impossible à jauger parce que c'est très rarissime ce genre de mobilisation. Maintenant, quand vous dites impossible à arrêter, si c'est une projection que vous faites après le 17 novembre, je crois que tout le monde se pose des points d'interrogation, y compris les organisateurs eux-mêmes. Ce ne sont pas des, on en reparlera, on l'a dit, ce ne sont pas des forces structurées et encadrées comme d'habitude dans les manifestations sociales, pour faire vite, hein, ou même sociétales, que ce soit les syndicats ou les partis politiques, ouais. Ou même des mouvements associatifs très forts. Je vous regarde, madame, puisque vous êtes d'Attaque.
Ah, vous regardez donc votre voisine
voilà, quel est son devenir je pense que tout le monde se pose la question.
Aurélie Trouvé, puisque vous êtes porte-parole d'Attaque, vous serez sur le terrain vous-même ou pas?
On a communiqué dans le sens où on comprend les revendications, la grogne sociale, pourquoi il y a cette grogne, mais non, on n'appellera pas à bloquer samedi, parce que pour nous, le problème n'est pas en soi la taxe sur les carburants, c'est la façon dont le gouvernement souhaite la mettre en œuvre dans un contexte où explosent les inégalités sociales. Le problème, c'est que dans le avec des inégalités sociales qui explosent, il y a toute une partie de la population qui effectivement ne peut pas se permettre de payer plus cher son carburant, et aussi et surtout, ce seront les classes moyennes et précaires qui seront les plus touchées, puisque dans le revenu, en fait, ce qu'on dépense pour les carburants, c'est d'autant plus important qu'on est pauvre, en fait, la part du revenu qui va au carburant.
Alors, je vais continuer ce tour de table avec vous, Agathe Cagé et Pascal Richer. Je voudrais d'abord qu'on réécoute ce qu'a dit le chef de l'État, Emmanuel Macron, hier soir dans son interview sur TF1. Écoutez bien.
Moi, j'entends la colère et je pense que c'est un droit fondamental dans notre société de pouvoir l'exprimer. Et donc que nos concitoyens qui considèrent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas entendus, pas considérés, s'expriment et le disent, d'abord, il faut le respecter, il faut l'entendre, et ils ont tout à fait le droit de manifester, de s'exprimer, et ils le feront samedi. Donc, respect, considération, et moi, je veux comprendre.
Vous avez compris le message.
Ensuite, je dis méfiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement.
Pascal Richer, apparemment, ces mots du président n'ont pas réussi peut-être, à atteindre ceux qui veulent manifester. C'est difficile à jauger ce soir.
C'est bien trop tôt. En tout cas, il y a un virage. Clairement, il y a un virage. Je crois que c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron faire une autocritique. Bon, il revient un petit peu à ses discours de campagne où il rêvait d'une société plus horizontale, plus participative, plus à l'écoute les uns des autres, etc. Il revient un peu de modestie. On est très loin des Gaulois réfractaires au changement, il suffit que vous traversiez la rue.
Vous l'avez trouvé plus à l'écoute.
En tout cas, visiblement, il y a eu un changement de stratégie de communication. Il dit voilà, il faut considérer ces gens, les respecter, ils ont le droit de manifester, etc. Enfin, il a multiplié les formules comme ça pour bien marquer que ils avaient compris que l'image d'arrogance presque de mépris de classe qu'ils affichaient ne peut plus fonctionner. Il est très très bas dans les sondages.
Agathe Cagé, mouvement spontané, difficile finalement à cerner.
Je pense qu'il y a une vraie crainte dans l'exécutif aujourd'hui par rapport à ce mouvement. C'est-à-dire que ce mouvement n'est pas encadré comme habituellement. Il est né de façon spontanée. Donc on a d'un côté le président de la République qui a des paroles un peu douces envers le mouvement pour essayer de le limiter. De l'autre côté, le ministre de l'Intérieur qui se montre extrêmement ferme en disant « Attention, si vous bloquez, il y aura des amendes, il y aura des sanctions ». On manie les deux côtés pour essayer d'anticiper au maximum ce que sera la situation de samedi. Mais ce mouvement est d'autant plus intéressant qu'on a vu tous les autres mouvements depuis le début du quinquennat totalement échouer. Est-ce qu'un mouvement né d'une initiative citoyenne, assez peu encadrée, réussira ou pas à susciter une vraie vague de fond d'expression des citoyens? C'est à voir.
À comparer avec les autres mouvements, c'est une vraie question. 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
La Cour d'appel de Paris a décidé ce jeudi de remettre en liberté l'islamologue suisse Tariq Ramadan. Il a cependant l'interdiction de quitter le territoire et doit remettre entre autres ses papiers d'identité. Tariq Ramadan était jusqu'à présent en détention provisoire à la suite de deux plaintes pour viol déposées en France. Le maire de Draveil, Georges Tron, et son ancienne adjointe à la culture sont acquittés. C'est le verdict rendu ce jeudi par la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Hier, l'avocat général avait requis 6 et 4 ans de prison contre Georges Tron et son ex-adjointe. Tous deux étaient jugés pour viol en réunion et agression sexuelle. Theresa May exclut une nouvelle fois tout nouveau référendum sur le Brexit. La première ministre britannique a défendu ce soir le projet d'accord conclu avec Bruxelles sur la sortie de son pays de l'Union européenne. Elle juge qu'il garantira un grand avenir à la Grande-Bretagne. Theresa May a pour la première fois présenté ce compromis aujourd'hui devant la Chambre des communes. La séance a été houleuse. Il était parmi les finalistes du Goncourt, du Fémina, du Médicis, du Renaudot. Le romancier David Diop reçoit finalement ce jeudi le Goncourt des lycéens pour son roman Frères d'armes, une histoire d'amitié à l'époque de la Première Guerre mondiale. Sur France Info, l'auteur s'est dit très touché de recevoir ce prix.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Yannick Halimi, il y a tout de même un débat très politique qui sous-tend ce mouvement et ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron, je le cite, ces mots exacts, quand vous avez ensemble des gens qui veulent plus d'emplois publics et des gens qui veulent moins d'impôts, je dis juste aux Français, on est en train de vous mentir et de vous manipuler. Quel est votre regard sur cette déclaration du chef de l'État ?
Et moi, je pense qu'il a effectivement voulu dire et éveiller, selon lui, les consciences, si je puis dire, de forces politiques qui pouvaient être sinon derrière, en tout cas à côté. Il n'a pas alimenté, il n'a pas utilisé des mots comme complot, comme instrumentalisation. Il a plutôt utilisé des arguments qui se veulent rationnels. On jugera sur pièce celui que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire avec sans les nommer, mais enfin en disant à droite et à gauche des partis qui.
Oui, c'est ce qu'il vise vraisemblablement. Oui.
Voilà,
oui.
Exactement. Et puis également les partis qui ont gouverné avant lui, puisqu'il disait que les mêmes aujourd'hui qui dénoncent la hausse de la taxation de la fiscalité sur le carburant avaient été les premiers à les mettre en œuvre, ou en tout cas à les suggérer, aussi bien à droite qu'à gauche. Mais il a parlé aussi de poujadisme. Vous savez, ce oui. mouvement d'entre les deux guerres qui était alimenté par les petits au nom du pouvoir d'achat et du niveau de vie des petits commerçants et ou des petites professions indépendantes et libérales, et qui en fait s'est révélé être, ça a duré qu'un feu de paille, mais ça s'est révélé être tout de même une poussée de droite, on va dire assez extrême. Et donc en tout cas, le mouvement qui était parti d'une forme de société civile est devenu une forme politique, puisqu'il a pris des positions, par exemple vis-à-vis de la guerre d'Algérie notamment, qu'il a eu, je crois, des députés dont d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, me semble-t-il, peut-être dis-je une bêtise, mais en tout cas, oui, il était très proche à l'époque, des députés à ce qui était la Chambre des députés à l'époque. Donc, et n'oublions pas qu'au début, lorsqu'on en a parlé il y a un mois et demi de ce mouvement, il y avait la gauche, la France insoumise et le Parti socialiste qui n'y allaient pas. Bon, maintenant, ils s'y sont ralliés parce qu'ils disaient, ils estimaient que c'était Monsieur Dupont-Aignan et le Rassemblement national, encore une fois, qui était sinon derrière, mais bon, à
tout
côté.
Tout ça, c'est à titre personnel maintenant, finalement. Chacun y va.
Chacun y va à titre personnel, et les organisations syndicales refusent d'y aller parce qu'ils estiment qu'il y a des mouvements, en tout cas des individus et des courants d'extrême droite dans ce mouvement-là. Donc voilà, effectivement, il y a certainement revendication de pouvoir d'achat, mais attention à la transformation d'un mouvement pareil.
Pascal Richer, sur cette
si on regarde les principaux
question de la récupération ou manipulation.
C'est surtout la cohérence de ces partis, parce que Le Pen était poujadiste, et au moins il y avait une cohérence, il voulait baisser les impôts et faire du Reagan à la française. Mais sa fille, elle veut à la fois diminuer les impôts et augmenter les dépenses, mais dans des proportions assez vertigineuses, hein, quand on regarde leur programme. Donc ça n'a absolument aucun sens. Quant à Dupont-Aignan, il propose de sortir de l'euro. Alors je vous laisse imaginer le prix de l'essence si on sortait de l'euro.
Il y a même les Républicains qui sont sur ce registre-là.
Oui, c'est pas parce qu'il y a des mouvements politiques différents qui soutiennent ou qui s'agrègent au mouvement que le sens profond de ce mouvement est pas intéressant à regarder de près.
Ah, mais pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit.
Quand on voit qu'il y a les plus grandes associations de défense de l'environnement en France, WWF, France Nature Environnement, qui signent une tribune pour dire attention, il y a quand même une responsabilité politique première qui est celle du gouvernement. Parce que la responsabilité du gouvernement, c'est finalement de créer un mouvement qui s'exprime et de faire en sorte que beaucoup de partis politiques s'expriment contre la fiscalité écologique parce qu'il n'a pas su répondre à un besoin essentiel, c'est permettre à des personnes qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer de continuer à le faire. Je pense que aller chercher la manipulation par les uns et par les autres est un peu facile si on ne prend pas d'abord en compte sa propre responsabilité. Et le travail de pédagogie du gouvernement après un mois et demi de montée en puissance du mouvement est extrêmement tardif.
Aurélie, il y a des mouvements aussi écologiques. Aurélie Trouvé, peut-être dernier mot là-dessus.
Oui, c'est tout à fait la. Tout à fait la position d'attaque. Alors certes, on n'appelle pas à les bloquer pour diverses raisons, mais on a une position très ouverte là-dessus et qui a évolué parce que effectivement, d'accord, se sont agrégés au départ des forces très réactionnaires qui voulaient dézinguer l'impôt de manière générale, mais de plus en plus, il y a eu aussi des revendications sociales derrière, avec la critique. Le problème, c'est qu'ils mettent en place une taxe sur les carburants au moment où ils ont fait énormément de cadeaux aux plus riches, mais ils ont fait peser encore un peu plus la fiscalité sur les classes moyennes précaires, et surtout, il n'y a pas de véritable politique efficace de transition écologique.
Justement, c'est la question de fond qui est posée, vous faites bien de la souligner, Aurélie Trouvé. Je vous propose d'écouter François Ruffin, le député de la France insoumise de la Somme, invité de France Inter ce matin, qui réclame, lui, plus de vision, ce sont ses mots, et plus de justice en matière écologique.
C'est du bricolage, c'est du bidouillage. Je veux dire, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on ait une transition écologique qui soit juste. C'est la justice qui manque dans cette transition écologique, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui manque, c'est un plan. C'est un plan qui sache où on veut aller dans 10, 20 ans, 30 ans, vers où on veut aller. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça sera acceptable s'il y a la justice et s'il y a une vision. On citait les transports en commun tout à l'heure. Aujourd'hui,
ce qui est donné en dividende pour les sociétés d'autoroutes, 4,5 milliards d'euros, ça suffirait à rendre gratuits les transports en commun de toutes les villes de France. Et pendant ce temps-là, on a Emmanuel Macron qui ne se pose pas de questions en la matière et qui continue de privatiser, en l'occurrence, les aéroports.
François Ruffin.
Voilà des questions. Il nous faut une vision et il nous faut de la justice.
Agathe Cagé, sur ce que dit ce député de la France insoumise, François Ruffin. Donc les politiques publiques ne vont pas assez vite en matière de transition écologique.
Le problème, c'est que par rapport à ces politiques publiques, il y a un double problème de confiance. Le premier problème de confiance, c'est qu'en matière de fiscalité écologique, vous ne pouvez pas flécher les recettes par rapport à des dépenses pour l'action en matière de transition écologique. Et par exemple, on ne peut pas flécher une partie des recettes pour rendre les transports publics gratuits, ce qui est proposé par ce député. Donc les Français voient bien qu'ils doivent contribuer et voient leur pouvoir d'achat baisser, mais leur contribution, c'est exactement la même que une contribution à l'impôt, et quand ils voient que d'autres impôts, notamment qui jouaient pour les plus riches, sont en diminution, ce qu'ils voient, c'est qu'eux c'est vont payer plus et d'autres vont payer moins.
Premier problème de confiance. C'est là que vient le sentiment peut-être d'injustice ou d'inéquité par rapport à ce que devient la destination de l'impôt.
Oui, il y a ce problème de est-ce que c'est vraiment pour que la planète aille mieux et les Français sont vraiment engagés dans cette transition écologique, qu'on me demande cette contribution que de toute façon je ne peux pas payer. Et le deuxième problème de confiance, c'est qu'à partir du moment où Nicolas Hulot démissionne en disant « Attention, la transition écologique, c'est un ministère où les lobbies ont un poids trop important », il n'y a plus de confiance dans ce que fait le gouvernement derrière. Donc il y a les deux phénomènes qui jouent. Et derrière, les Français n'acceptent plus, parce que aussi le porte-monnaie ne leur permet plus, de payer cette augmentation.
Très concrètement, Pascal Richer, l'idée.
Il y a une chose qui est incompréhensible, c'est que la fiscalité écologique est faite pour changer les comportements. Et quand vous avez une voiture, que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture, vous ne changez pas votre comportement. Donc, pour la planète, ça ne change rien du tout. Et ça, les gens le comprennent bien.
Il y a des mesures qui n'ont pas été assez fortes au début et qui ont été renforcées. Il y a quand même des mesures d'accompagnement entre la prime à la conversion, entre la prime pour le changement de chaudière, entre l'indemnité kilométrique et le chèque énergie, alors qui ont été sous-estimées, qui ont dû être renforcées.
C'est 3 milliards qu'on prend dans la population.
Mais tout de même. C'est 7 milliards l'ensemble de... Alors, tout ne va pas vers la transition écologique.
Mais c'est quand même... Additionnelle.
On peut pas dire que rien n'a été fait. Moi, je cherche pas du tout à défendre le...
TVA, pardonnez-moi, Yannick. TVA et TICPE, c'est 67 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Grosso modo, vous avez 7 milliards destinés à la transition écologique.
Alors, vous prenez la TVA parce qu'il y a une partie de la TVA qui est reversée à la TICPE, mais la TICPE, c'est 34 milliards d'euros.
Plus 7 à 8 milliards.
Il y a 12 milliards qui vont aux collectivités locales, départements. Absolument.
Par ailleurs, le problème, c'est aussi...
L'argent public, c'est aussi l'argent public. Je veux dire que ça ne va pas dans la poche du privé, l'argent public.
De mettre en regard les 37 milliards, 30, 35 milliards à peu près, qui viennent des taxes sur les produits énergétiques pour 2019 et 7 milliards seulement pour le budget de la transition écologique qui a très 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 faiblement augmenté
le budget de l'écologie depuis
plusieurs années. Deuxièmement, sur la question écologique, le problème que vous dites, c'est effectivement qu'on contraint les gens, c'est-à-dire que ce serait efficace cette taxe s'ils avaient le choix. Et si du coup ils réduisaient leur achat de carburant, ils n'auront pas le choix, notamment parce qu'il n'y a aucun plan de développement massif des transports en commun pour les rendre moins chers, plus denses, plus efficaces. Sans ça, effectivement, notamment les couches les plus pauvres dans les communes rurales se trouvent complètement floués par cette
Je vous interromps, on marque une pause, pardonnez-moi, c'est parce qu'il est 20h21 sur France Info et c'est l'heure du rappel de l'info avec Thomas Benège, c'est comme ça.
À quelle hauteur les Gilets jaunes vont-ils se mobiliser ce samedi dans l'Hexagone? France Info a fait les comptes et sur 1500 actions annoncées dans le pays, seulement une centaine sont déjà déclarées en préfecture. Samedi, le mouvement des Gilets jaunes appelle au blocage des routes pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Invité du 19-20 politique de France Info, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, confirme le report de l'examen du projet de loi sur la bioéthique dans lequel figure la PMA. Le texte sera présenté au premier trimestre 2019 avant d'être débattu à l'Assemblée au début de l'été. Le gouvernement souhaite élargir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ainsi qu'aux célibataires. À 4 jours de leur congrès, l'Observatoire de la démocratie de proximité publie aujourd'hui une enquête montrant une crise des vocations chez les maires en France. Selon cette étude, 49% des interrogés annoncent qu'ils ne se représenteront pas lors des prochaines élections municipales prévues en 2020. Cela concerne essentiellement les élus des petites communes. En rugby, deux nouvelles arrivées dans l'équipe de France, celle de Gaël Ficou au centre et de Johan Hugé sur l'aile. Le sélectionneur annonçait leur titularisation pour le test match de samedi face à l'Argentine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
En tous les cas, Aurélie Trouvé et Yannick Halimi, vous avez bien révisé vos chiffres. Tout est juste, tout ce que vous dites est juste. Et vous dites, vous, finalement, Aurélie Trouvé, qu'il n'y en a pas assez pour cette transition pure, hein, écologique. Et vous faites bien, Yannick Halimi, de rappeler que effectivement, des milliards vont à la destination des collectivités territoriales. Et c'est important qu'ils peuvent aussi agir pour le quotidien des Français.
Et Mathieu Orphelin, qui a été le bras droit de Nicolas Hulot, estime aujourd'hui que toutes les populations ont profité des mesures prises. Donc c'est quand même un écologiste avec un grand E, Mathieu Orphelin.
Ça mérite d'être
précisé, mesdames. Le chef de l'État a dit tout à fait autre chose également hier soir, qui aura été un des temps forts de son interview. Écoutez bien.
Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Pascal Richet, opération Vérité.
Oui, enfin, c'est ce que je dis un peu tout à l'heure, quoi. Ça témoigne d'un changement de pied en termes de communication. Pour la première fois, on entend ce président faire une autocritique. Est-ce qu'il est sincère? Bon, on peut l'espérer.
Agathe Cagé, est-ce qu'il y aurait un déficit au fond de récit, peut-être de doctrine au sein du parti majoritaire, de ce chemin qu'on doit tracer pour que les ensembles, comme les Français, enfin la population, nous, puissions comprendre où est-ce que l'on va? C'est peut-être ça le problème aujourd'hui?
En fait, le vrai problème, c'est que j'ai jamais perçu que le président de la République ait voulu réconcilier le peuple français et ses dirigeants, parce qu'il s'est présenté dès le départ comme le président un peu de droit divin, jupitérien, très éloigné du reste du monde et décidant seul.
Ça, c'était après son arrivée à l'Élysée. C'était après son arrivée. Pendant la campagne, c'était pas son discours.
Oui, mais dès la cérémonie du Louvre, dès le soir de l'élection et pendant les premiers mois de son pouvoir, il s'est au contraire présenté comme très éloigné des Français, comme très éloigné des contre-pouvoirs et comme n'ayant discuté avec personne. Donc en effet, là, il change totalement de pied en matière de communication, mais dire « je n'ai pas réussi à recréer le lien », il n'a jamais cherché à le créer. Au contraire, il a une pratique très éloignée des Français, de leur quotidien. Parfois, on lui a reproché, très méprisante, quand il les a critiqués, traités de gaulois réfractaires. C'est parce que hier soir, on a cru qu'il allait verser une larme sur le fait que le peuple ne me comprend pas alors que moi je comprends sa colère, qu'il va pouvoir retisser du lien avec la population.
Yannick Halimi, peut-être un changement de ton, s'il y a un petit peu de « je vous ai compris » ou c'est vous
nous avez Gaulle, mal, ça, ou, je pense que...
vous m'avez mal compris.
Non, mais après ça durera ce que ça durera, ça je n'en sais rien, mais plus il peut revenir aussi à ces petites phrases et plus que du mépris de la part d'Emmanuel Macron, notamment avec la phrase que vous venez de citer.
Mais est-ce que c'est positif, ce
je pense que c'est plus de l'ingratitude vis-à-vis du peuple français qui finalement l'a porté au pouvoir et l'a plutôt porté avec une certaine popularité pendant les 6 premiers mois. Pardon.
Est-ce que ce changement de discours, de ton est positif selon vous?
C'est positif si c'est suivi des faits. Ah oui. Alors il y a des éléments qui dépendent de lui dans son comportement, dans la façon de gouverner, dans la façon dans les moyens qu'il peut mettre en place. Parce que encore une fois, Macron, il est arrivé il y a 2 ans, son parti a été créé il y a 2 ans et demi. Il faudrait qu'il crée les relais avec la société civile au niveau de son parti, au niveau du groupe, au niveau des députés. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, pour que le lien de confiance se rétablisse vraiment, là, il fait les réformes qu'il a dit qu'il faisait. Ça, je pense,
c'est plutôt cohérent. Il a été élu pour ces réformes.
Encore faut-il que son et ensemble et en même temps et de droite et de gauche prennent véritablement forme. Et puis aussi et surtout que ces réformes portent leurs fruits, notamment en matière de chômage.
Attendez, Aurélie Trouvé, il vous a convaincu hier soir. Je crois connaître la réponse, mais...
Vous doutez de la réponse. Non. Évidemment non, parce que tout dépendra des décisions concrètes. En attendant, depuis qu'il est au pouvoir, il a multiplié des politiques, comme je disais, avec notamment une politique fiscale en faveur des très riches et même des très très riches. Ne serait-ce qu'il y a deux semaines, il a encore décidé dans la loi de finances à venir, par exemple, d'une baisse de la fiscalité sur les bonus des gérants des fonds d'investissement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a toute une série de décisions qui vont toujours dans le sens des plus riches et qui augmentent la fiscalité sur les classes moyennes et précaires. Et ça explique aujourd'hui la grogne. Je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et qui fait que d'ailleurs que la gauche s'y rallie petit à petit.
Ça va
être très très difficile pour lui. Je pense qu'il a effectivement ce péché originel qui est les cadeaux fait aux plus riches à travers la réforme de l'ISF.
Ça rappelle un petit peu le paquet fiscal de 2007-2008. Hein.
Oui, tout à fait. Ça rappelle des choses. Chaque président a son péché originel. Je pense que Sarkozy, lui, c'était le fait d'être revenu sur le référendum de 2005 qu'il a un petit peu blessé. Hollande, c'était mon ennemi, c'est la finance. Et puis ensuite, il a changé de cap. Donc lui, c'est un peu pareil. Il est parti avec ce péché originel et ça va être très, très difficile de s'en débarrasser.
Le fameux sparadrap. Oui. Allez, nous allons marquer une pause pour la météo, le rappel de l'info. Et nous revenons juste après pour évoquer le Brexit, un épisode difficile à Londres, et nous parlerons du blues des maires de France. À tout à l'heure.
Et si, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte, d'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et les prévisions signées Elodie Calac pour Météo France.
Encore de la grisaille, demain le réveil se fera sous les nuages et les brouillards sur la moitié nord jusqu'au Lyonnais, de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon aussi, des Charentes et du Massif central vers les Alpes et la Côte d'Azur, des plaques de grisaille, mais on trouvera quand même des éclaircies. En montagne, ce sera plein soleil. Il fera 2 degrés à Metz et Mulhouse le matin, 7 à Paris, à Lyon, 9 à Rennes et Agen, 12 degrés à Nice. L'après-midi de la Bretagne vers l'Orléanais, la région parisienne et le Pas-de-Calais, ça restera gris le plus souvent. Le soleil sera vraiment très très discret. Pareil vers le Val-de-Saône, la plaine d'Alsace. Beaucoup de nuages aussi sur le Roussillon, quelques gouttes. Ailleurs, le soleil finira par revenir. Le vent se renforcera sur les côtes corses jusqu'à 70 km à l'heure en fin de journée. Il fera encore très doux sur le sud-ouest et autour de la Méditerranée, 17 à 20 degrés et 9 à 15 degrés sur les autres régions.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Un avant-goût de blocage des Gilets jaunes en Bourgogne, 2 jours avant l'appel national. Opération Escargot ce soir dans la Nièvre et une autre non loin de Chalon-sur-Saône. Elles ont provoqué à chaque fois plusieurs kilomètres de bouchons. Samedi, plus de 700 actions visant à perturber ou bloquer la circulation sont d'ores et déjà annoncées. Le ministère de l'Intérieur annonce l'envoi de 2700 policiers et gendarmes en renfort. La thèse d'un élu abusant de son pouvoir pour vampiriser ses victimes n'a pas convaincu la cour. Georges Tron a été acquitté. L'ex-secrétaire d'État a été jugé pour viol et agression sexuelle de 2 ex-employés municipales. Son ex-adjointe à la culture à la mairie de Draveil en Essonne est également blanchie. L'avocat général avait requis 6 ans de prison ferme contre le premier et 4 ans pour la seconde. Aux accusés d'être entendus aujourd'hui aux assises des Yvelines à Versailles, le tueur en série Michel Fourniret et Monique Olivier comparaissent pour le meurtre en 88 de Farida Hamish. Ils ont reconnu l'avoir tuée après qu'elle les a emmenés à un trésor, 20 kilos d'or dont on découvrira plus tard qu'ils appartenaient au gang des Postiches. Michel Fourniret est entendu pendant 2 heures cet après-midi. Le tueur en série a adopté la même attitude qu'il y a 10 ans. devant les assises des Ardennes, entre provocation et perversité. Ariane Grissel.
Michel Fourniret entend mal, mais parle distinctement, froidement. La raison pour laquelle j'ai tué Farida, elle est tout à fait abjecte. Une question d'argent. Il a beau utiliser ce mot, abject, le tueur en série ne semble pas hanté par les remords. Il garde la tête haute, fixe les avocats dans les yeux. C'est Monique Olivier qui vous a obligé à avouer en révélant vos crimes, lui avance l'un d'eux. Monique, m'obliger à quelque chose, vous rigolez, mon vieux, s'emporte l'accusé. Michel Fourniret tient encore une fois à le montrer, on ne l'oblige à rien. Et surtout pas à répondre à la question, l'enjeu de ce procès, où est le corps de Farida Hamish? À un moment, il évoque une carrière de sable dans les Yvelines. C'est un bon endroit pour enterrer un corps. Vous l'avez enterré à main nue, interroge un avocat. Je n'ai pas dit que je l'ai enterré là, je parle de la topographie du site. Mais que vous a fait cette famille, s'emporte l'avocate des proches de Farida Hamish. Admettez que je sois à la fois un dingue et un sale type. Un peu plus tard, place à l'expert psychiatre, il décrit un Michel Fourniret paranoïaque, pervers, et ajoute « c'est quelqu'un qui peut encore se montrer dangereux ».
Un reportage d'Ariane Grissel. Le gouvernement reporte au printemps prochain l'examen à l'Assemblée du texte qui ouvre la PMA à toutes les femmes, aux grandes dames des militants. Le texte fait débat, il devait être initialement débattu au Parlement au 1er septembre, au premier trimestre pardon, de l'an prochain. Et puis UBS sera fixé sur son sort le 20 février prochain. Le géant bancaire suisse est jugé à Paris pour le démarchage illégal de riches clients français, la dissimulation de milliards d'avoirs non déclarés. Le parquet national financier requiert une amende de 3,7 milliards d'euros contre la banque. Les avocats demandent, eux, une relaxe générale.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Yannick Halimi, très en forme, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Agathe Cagé, politiste, présidente du cabinet de conseil Compass Label, auteur de « Faire tomber les murs » chez Fayard, avec Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, l'organisation altermondialiste, avec Pascal Richer, directeur adjoint de l'OPS, cofondateur de Rue 89. Alors elle va continuer à se battre pour faire adopter cet accord si difficile. La première ministre britannique Theresa May, au terme d'une journée particulièrement intense en rebondissement entre la démission de 4 membres de son gouvernement, c'est mieux que chez nous, dont le ministre d'ailleurs en charge du Brexit, et une séance assez tendue, nous le verrons tout à l'heure devant la Chambre des communes, eh bien elle a donné une conférence de presse à 18h pour marquer de nouveau sa détermination, Theresa May.
Je crois au plus profond de moi que le chemin que j'emprunte est le bon pour notre pays. Et ce, dès le départ, j'ai toujours su ce que je souhaitais accomplir pour le peuple britannique, pour honorer leur décision dans le cadre du référendum. C'est un accord de sortie de l'Union européenne qui atteint les objectifs de la majeure partie du peuple britannique. J'essaie de protéger ce qui compte pour nous.
Agathe Cagé, tout le monde s'est dit à ce moment-là, ça y est, elle va démissionner, donner une conférence de presse, mais elle reste, elle a raison de se battre.
Elle a un courage formidable, hein. Qu'on soit pour ou contre le Brexit, pour ou contre les choix qu'elle fait, elle a un courage formidable. C'est-à-dire que c'est une femme politique qui a pris le dossier le plus difficile, sans doute, qu'auront à conduire tous les gouvernements en Europe dans les prochaines années. Elle le conduit contre une partie de son gouvernement. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, ce n'est pas le Premier ministre qui prend les décisions seul. Il faut un accord au sein du gouvernement. C'est pour ça qu'hier, elle avait obtenu cet accord. Alors, pas cette unanimité, mais cet accord au sein du gouvernement en faveur du texte tel qu'il avait été adopté avec l'Union européenne. Et elle va jusqu'au bout pour défendre ce projet. Et là où je trouve qu'elle a un courage formidable, c'est qu'on sait très bien que si elle abandonne, ça va être le chaos politique absolu. Oui, ça va du côté du Royaume-Uni. Donc elle prend vraiment ses responsabilités, sachant que de toute façon, à la fin des débats et des discussions, sa carrière politique est finie. Donc je pense vraiment que, indépendamment du point de vue qu'on peut avoir sur ses propres choix et ses propres opinions, elle montre vraiment une force assez impressionnante de femme d'État.
Pascal Richer, dans le même ordre d'idée, c'est un peu la dame de fer version 21e siècle.
Ouais, ou la dame de Téflon, parce qu'elle résiste à tout.
À tout.
Et elle avance. Et effectivement, elle est probablement protégée par le fait que si elle saute, ce sera le chaos et le chaos économique aussi, puisque que ce soit, enfin, s'il y a un no deal à la fin, la Grande-Bretagne sera dans une situation extrêmement difficile. Ouais. Mais là, cet accord, quand même, elle a avalé pas mal de couleuvres au passage, hein, parce que elle disait, il y aura pas d'union douanière, il y a une union douanière, il y aura pas de Cour de justice. Finalement, la Cour de justice européenne pourra appliquer ces décisions. Enfin, il y a des choses quand même très très importantes, y compris sur l'Irlande. Il y aura un régime différent en Irlande.
Ce sont un peu les termes de l'accord que vous décrivez, hein, une espèce de période de transition où finalement la Grande-Bretagne reste relativement européenne. Finalement,
phrase de Jean-Louis Bourlange qui disait « Ah bah le Brexit, vous savez, les Anglais, ils avaient un pied dedans, un pied dehors, et après le Brexit, ce sera le contraire. » Et c'est assez juste, je trouve.
Yannick Halimi, sur cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, on a l'impression que, eh bien, ils ont dit oui, les Britanniques, et quelque part, on sort en douceur ou à reculons.
Alors d'abord, on n'en sort pas, comme on vient de le dire.
On ne sort plus, hein, finalement.
Non, pas du tout.
C'est une période de transition, parce qu'après, il faudra négocier une sorte d'accord de libre-échange, finalement, au-delà.
Ça peut se poursuivre quand même, parce que ça peut aussi durer longtemps. Mais pour le moment, le Royaume-Uni reste dans l'union douanière, contrairement à ce qu'a dit, mais aussi à ce qu'a continué à dire pour ses propres concitoyens, Theresa May.
J'aurais pu vous aider là. Oui.
Voilà, Theresa May. Donc elle reste sous le contrôle de la Cour de justice. Vous avez raison, mais elle abandonne toute possibilité d'avoir son mot à dire dans la négociation d'accord, dans la prise de décision au sein de l'Union européenne, et elle-même ne peut pas négocier. Le Royaume-Uni ne peut pas elle-même négocier des accords bilatéraux qui pourraient faire du dumping avec la Chine ou avec le Brésil, par exemple. Donc, quand ceux qui prônent un Brexit hard, beaucoup plus contraignant pour l'Union européenne, si je puis dire, beaucoup plus souple pour la Grande-Bretagne, ils n'ont pas totalement tort quand ils disent que la Grande-Bretagne devient le vassal de l'Union européenne, parce que certes, la Grande-Bretagne ne va plus payer ses contributions à l'Union européenne, mais elle ne va plus participer. Encore une fois, aux décisions, et elle va devoir respecter le libre-échange et les accords avec les mêmes normes environnementales, fiscales et sociales que les pays européens. Grâce à l'Irlande.
Dans la période de transition. Hein. Et par ailleurs, ils vont quand même payer les Britanniques le chèque, puisqu'ils sont contributeurs nets du budget de l'Union européenne. Ils vont payer le chèque.
Un petit 40 milliards d'euros.
Oui, petit, mais enfin, c'est quand même pas mal.
Bien sûr.
Est-ce que ça va être le chaos si Theresa May n'y arrive pas? Bon, d'abord, il y a les travaillistes quand même derrière, hein, qui sont quand même très bien placés politiquement aujourd'hui en cas d'élection anticipée. Jeremy Corbyn et le Parti des travaillistes ont un objectif.
Ils n'ont pas une position très claire.
C'est un second référendum. Là, il l'a annoncé, Corbyn, parce que Corbyn était quand même assez partagé, parce qu'il partait du. Il partait d'une position qui était quand même pas loin du Brexit. Finalement, il s'est rallié à son camp travailliste, qui est quand même pour un second référendum où on peut se dire que peut-être le Brexit ne repasserait pas.
Agathe Cagé, les Belges ont vécu longtemps sans gouvernement, ça a été dit et redit. C'est une période de compliquée pour la Grande-Bretagne, ces quatre ministres qui démissionnent, cette première ministre fragilisée en termes de gouvernance et de bonne marche du pays.
Oui, c'est extrêmement compliqué parce que l'attention doit totalement se focaliser sur la gestion du Brexit, alors qu'on a un pays qui aurait à gérer un certain nombre d'autres choses, et en plus un pays que la nouvelle relation que Trump impose à l'ensemble de ses partenaires ne facilite pas non plus dans sa gestion des économiques, dans sa gestion des relations diplomatiques. Je pense que Theresa May obtient un accord au sein de son gouvernement, que quatre ministres démissionnent derrière, ça veut aussi dire qu'elle a un problème pour tenir sa majorité gouvernementale. C'est-à-dire qu'on s'endort, on dit elle a bien joué car elle a l'accord. Le lendemain, elle a toute une partie du gouvernement qui s'en va. Elle peut renommer d'autres ministres. De toute façon, c'était des ministres qui s'étaient clairement opposés à un certain nombre de ces choix. Mais on n'a pas encore un pays sans gouvernement.
Allez, nous allons poursuivre sur ce qui se passe outre-Manche dans un instant après le rappel de l'info à 20h40 sur France Info avec vous, Thomas Bénèche.
La Cour d'appel de Paris l'a décidé. Tariq Ramadan va retrouver la liberté, mais sous condition. L'islamologue suisse doit payer une caution de 300 000 euros et une interdiction, entre autres, de quitter le territoire. Tariq Ramadan était depuis 9 mois maintenant en détention provisoire après le dépôt en France de 2 plaintes pour viol. Le maire de Draveil, Georges Tron, et son ancienne adjointe à la culture, acquittés par les assises de Seine-Saint-Denis. Les deux accusés comparaissaient devant la justice depuis le 23 octobre dernier pour des faits de viol en réunion et agression sexuelle sur 2 anciennes employées municipales. L'Élysée confirme ce soir qu'Emmanuel Macron ne se rendra pas à partir de lundi au Congrès des maires de France. Il invitera en revanche les élus au palais. Invité ce soir de France Info, André Léniel, premier vice-président socialiste de l'Association des maires de France, qualifie cette absence du chef de l'État de mauvaise manière. Au Mexique, plus de 1500 migrants sont arrivés aujourd'hui à Tijuana, ville frontalière avec les États-Unis. Ils s'ajoutent aux 800 réfugiés centra-américains déjà présents et prêts à passer en Amérique pour y demander l'asile.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
À la presse populaire à Londres, un cri à la trahison et à la dépendance de Bruxelles. C'était couru. Les Européens programment un sommet le 25 novembre. Michel Barnier, tiens, le négociateur en chef de la Commission européenne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, partisan d'un Brexit en douceur, en appelle au calme, tout simplement.
Nous ne sommes pas au bout du chemin. Et nous savons bien qu'il reste beaucoup d'étapes de part et d'autre dans le processus de ratification. Donc nous allons rester très calmes, nous allons rester très méthodiques dans notre démarche.
Pascal Richer, c'est comme dans les films d'Audiard, on va rester calme, hein, mais on sent que c'est quand même pas simple tout ça. Hein.
Non, c'est pas simple. Bon, il peut se féliciter, il a quand même bien mené sa barque, Barnier, mais il crie pas victoire pour l'instant parce qu'il sent bien que la situation est très très compliquée et qu'il peut y avoir effectivement plusieurs scénarios en Grande-Bretagne, soit la Chambre des communes en décembre, bon, parce que le 25 novembre, ça passera, je pense, hein, au sommet européen, mais ensuite, le problème, c'est la Chambre des communes qui doit voter en décembre sur le plan de Theresa May. Donc, si ça passe pas, qu'est-ce qui se passe? Soit elle démissionne, effectivement, Jeremy Corbyn arrive, prend le pouvoir, un nouveau référendum peut-être.
Alors non, Theresa May a dit ce soir, Jannick Halimi, pas de deuxième, bon, si elle est toujours là, hein, pas de deuxième référendum, ça a l'air d'être sans retour cette affaire. Hein.
Si elle est toujours là, elle ne le fera pas. Si mais elle si elle est obligée, si elle est renversée, les anti-Brexit font partie aussi des gens qui déstabilisent Theresa May parce qu'ils estiment que s'ils déstabilisent Theresa May, ceux qui, encore une fois, qui sont contre le Brexit, hein, qui veulent rester dans l'Union européenne, ils estiment qu'une fois à la place des Theresa May, ils dissolveraient, feraient un nouveau référendum en pariant cette fois-ci, comme vous le disiez, sur la victoire du non au Brexit. Voilà,
et l'autre scénario, c'est le no deal. Il n'y a pas d'accord. Et dans ce cas-là, on est dans une situation.
Dans ce cas-là, le Royaume-Uni se retrouve comme n'importe quel autre membre de l'Organisation mondiale du commerce vis-à-vis de l'Union européenne, c'est-à-dire par exemple comme les États-Unis, avec les mêmes droits de douane, etc.
Voilà. Mais ce sera un chaos complet. Parce que, si vous voulez, 2 minutes de contrôle à Calais, c'est 27 km de camions en plus. Oui. S'il y a 2 minutes de contrôle en plus, il y a 27 km en plus.
Il y a eu notamment des articles très intéressants sur... on a travaillé cette question-là. Il y a d'autres risques derrière. Il y a notamment la question... parce qu'on pourrait se dire, dans une perspective de gauche, c'est peut-être bien. Par exemple, on sait que les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent très bien renforcer une zone de dérégulation financière et de nivellement vers le bas des normes telles que des normes sur la finance. Bien ça a sûr. Été d'ailleurs annoncé par Theresa May, hein, qui dit nous, on sera le pays du G20 le moins, qui chargera moins les investisseurs financiers.
Le
on
paradis
sera les
fiscal
plus
de l'Europe.
Ça le problème, de devenir le paradis fiscal, un énorme paradis fiscal de l'Europe. Donc, sur la question financière, c'est un problème, et notamment parce que, le gouvernement français joue à ce petit jeu-là aussi pour attirer les grands acteurs de la City, et donc est en train de multiplier les cadeaux, notamment fiscaux, vis-à-vis des grands acteurs de la finance, pour aussi attirer. Enfin, du coup, on se dirige vraiment vers une guerre vers le moins 10 ans
les services
sur la finance, ce qui est un problème.
Ne sont pas concernés par l'union douanière, les services financiers, les banques et les assurances.
Dernière question.
Pour ça qu'il y a beaucoup de filiales, de groupes anglais qui cherchent à s'installer, britanniques, du Royaume-Uni qui cherche à s'installer à Paris ou à Berlin.
Là, il y a déjà, il y a déjà une conséquence, c'est que par exemple, les acteurs de la City ont perdu, là, avec dans le nouvel accord, perdraient leur passeport européen, c'est-à-dire
la carte. Voilà. Mais même dans l'accord soft, si je puis dire, les services financiers ne sont pas concernés.
En tous les cas, mesdames, s'il vous plaît, Emmanuel Macron a milité en faveur d'une nouvelle souveraineté européenne. Je me tourne vers vous, Agathe Cagé, avec ce Brexit, cette Italie qui veut, au fond, se soustraire des impératifs de Bruxelles et des dirigeants qui sont peut-être avec une relation difficile comme Salvini et Orban. Sommes-nous aujourd'hui, question toute simple, Agathe Cagé, dans une sorte de virage de notre histoire de l'Union européenne?
C'est vraiment une question toute simple. Vous avez 6 heures devant vous.
Je suis un peu ironique une fois de plus.
Attendons le résultat des élections. Attendons le résultat des élections européennes en France et dans le reste de l'Union européenne aussi pour voir s'il n'y a pas des choses qui se dégagent en termes de tendances assez intéressantes. L'Union européenne, sa force, c'est que c'est une construction de long terme. Là, on voit des dirigeants et certaines positions en Italie. On voit Orban également. C'est des dirigeants qui peuvent aussi changer. Il y a besoin de ressouder des liens entre un certain nombre de pays. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, on a une difficulté avec deux pays qu'on peut pas essayer de construire quelque chose d'intéressant. Par exemple, entre le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, il y a des choses qui peuvent être encore faites. Attention de ne pas trop tôt sombrer dans la crainte d'une Union européenne qui serait au risque d'une disparition totale. D'autant plus que, à mon sens, le Brexit, dans sa complexité, devrait refroidir un certain nombre de personnes qui défendent le même type de mouvement pour d'autres pays.
Allez, venons-en à présent à l'enquête du Cevipof rendue publique aujourd'hui, qui prend une résonance particulière dans ce contexte, on va dire, un petit peu troublé. Près d'un maire sur deux, donc, songe, c'est 49% du chiffre exact, à abandonner tout mandat électif. Et ceux qui ont été élus pour la première fois en 2014, eh bien, sont 60% à l'envisager. C'est ce que dit le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po. Il pourrait donc y avoir une sorte d'important renouvellement, on va le dire, aux prochaines municipales en mars 2020. Voici donc un exemple du blues des maires. Jacques Drouin à Flagy et Francis Duchâteau à Ville-Saint-Jacques, tous deux sans étiquette en Seine-et-Marne.
Je ne sais plus comment faire. Si j'arrête, c'est aussi cette pression permanente. Il arrive un moment où les maires, et moi je suis dans cette situation, où le stress devient insupportable. C'est-à-dire qu'on veut bien consacrer 12 heures par jour. Mais en même temps, il arrive que, trop c'est trop.
Nous sommes les derniers maillons de la chaîne, on y est là au plus près des habitants. On a donc un manque de reconnaissance de l'État et de ses services. Et donc ça, c'est assez désagréable et assez frustrant.
Yannick Halimi, stress, trop c'est trop, dernier maillon de la chaîne, ils ont le blues donc, ces maires.
Ils ont le blues, c'est pas nouveau hein, quand même. Alors effectivement, ce sont des maires, beaucoup ont été élus en 2014, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu en 2015, je crois, plusieurs maires de petites ou moyennes communes qui s'étaient carrément suicidés pour des raisons liées à l'exercice de leur profession, parce que beaucoup de choses pesaient sur leurs épaules, notamment des responsabilités lorsqu'il y avait des accidents dans des gymnases ou dans des cours d'école. Enfin, donc, c'est vrai qu'on demande, et les citoyens et les administrés, comme on dit, demandent beaucoup au premier élu politique qui est en
vous dites
deux,
citoyen administré, et est-ce qu'il y a aussi un problème avec la relation avec l'État? Tiens à vous de jouer, Agathe Cagé.
Je pense quand le président Emmanuel Macron explique ce soir, après avoir dit hier soir qu'il voulait renouer le lien avec les Français, qu'il n'ira pas voir les maires au Congrès des maires de France, sauf ceux qui vont bien venir jusqu'à son palais.
Il va les recevoir au palais de l'Élysée.
Oui, c'est ça. Il y a ceux qui viennent à son palais, mais lui ne peut pas se déplacer pour les voir. Il y a un vrai problème aussi de relation avec ceux quand même qui sont... Les maires, ce sont les élus que les Français connaissent, que les Français reconnaissent, qui ont une vraie responsabilité dans la qualité de la gestion d'un quotidien. On l'a bien vu sur les derniers événements dramatiques à Marseille. Il y a une responsabilité immense des maires sur ce qu'est le logement, ce qu'est la voirie, ce qu'est la gestion d'une
ville. Oui, il y a des manifestations contre le maire Jean-Claude Godin, en l'occurrence.
Et on a avec les maires des élus qui sont des élus essentiels. Et ce qui est intéressant dans le cas du Cevipof, c'est que ça montre que la majorité des maires sont sans étiquette politique. Ce sont des personnes qui sont venues du monde associatif, souvent des retraités qui ont envie de s'engager, mais avec des fonctions qui sont extrêmement difficiles, des collectivités territoriales qui ont de moins en moins de moyens, qui n'ont pas forcément auprès d'elles beaucoup de personnes pour les aider à conduire une action qui est une action compliquée. Et il y a un vrai besoin de soutien de la part de l'État, des maires, parce que les maires tout seuls c'est un peu cette idée de dernier maillon de la chaîne, ne peuvent pas s'en sortir.
Allez, nous poursuivons sur les maires de France dans un instant, 20h50 sur France Info. L'ultime rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
À quoi va ressembler la mobilisation des Gilets jaunes? Selon le décompte effectué par France Info, sur 1500 actions environ programmées samedi dans l'Hexagone, eh bien, seules une centaine ont été déclarées en préfecture. Samedi, le mouvement des Gilets jaunes appelle au blocage des routes françaises pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. À Marseille, la police judiciaire a mené ce jeudi des perquisitions au domicile des propriétaires des appartements du 65 rue d'Aubagne. C'est à cette adresse qu'un immeuble s'est effondré il y a 10 jours maintenant, faisant 8 morts. Les enquêteurs cherchent à collecter des informations sur d'éventuelles responsabilités dans ce drame. Selon le ministre des Relations avec le Parlement, l'examen du projet de loi sur la bioéthique intégrant notamment la PMA ne se fera pas avant l'été. Invité du 19-20 politique, Marc Fesneau estime que ce report n'est pas lié aux élections européennes de mai prochain. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres au premier trimestre 2019 avant un débat à l'Assemblée au début de l'été. Theresa May reste en poste et a défendu ce soir devant la presse le projet d'accord conclu avec Bruxelles sur la sortie de son pays de l'Union européenne. Elle juge qu'il garantira un grand avenir à la Grande-Bretagne. Theresa May a pour la première fois présenté ce jeudi ce compromis devant la Chambre des communes. La séance a été particulièrement houleuse.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous Thomas Bénèche. Pascal Richet, ce blues, pardon pour cette expression, c'est un peu facile, hein, des maires de France, est dû à quoi selon vous? C'est une sorte d'addition, de soucis, les dotations en baisse, peut-être trop de responsabilités, le statut de l'élu?
Il y a un problème général qui est la crise de la représentation politique, hein, et donc eux, ils le subissent de plein fouet, puisque comme disait Agathe Gagé tout à l'heure, ils sont directement en contact avec les citoyens administrés. Donc ils ont déjà ce problème-là. Et ensuite, effectivement, ils sont coincés entre des demandes de plus en plus fortes des citoyens et une forme d'impuissance, puisqu'ils sont submergés de questions bureaucratiques, baisse de dotation, baisse de moyens, détache en plus, on leur a donné, je crois, les permis de conduire, les passeports à gérer, qui sont pas toujours financés, enfin compensés par l'État. Et donc, ils se retrouvent dans des situations. Ajoutez à cela qu'il y a tout le problème de l'intercommunalité, qui est mené au pas de charge, quand même, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, où ils sont dans des réseaux de communes sur lesquels ils ont en général peu de prise. Ils sont des petites communes, donc ils reviennent chez eux dans leur commune et souvent bredouillent. Donc tout ça crée un sentiment de frustration et d'impuissance, et on comprend qu'ils en aient assez.
Alors je cite le Cevipof: à l'enthousiasme du succès électoral succède aujourd'hui chez bon nombre de maires une certaine fatigue psychologique face aux attentats de plus en plus élevés, aux attentes, quel lapsus, de plus en plus élevés des citoyens, note l'étude, même si elle ne conclut pas à un malaise généralisé. Aurélie Trouvé, il y aurait finalement des statuts à plusieurs vitesses chez les maires. Il y a des maires peut-être mieux dotés que d'autres, et peut-être d'autres maires qui souffrent plus, c'est ça l'histoire.
Certainement, mais pour rejoindre ce qui vient d'être dit, il y a quand même globalement une tendance à la baisse des dépenses publiques des communes dans le produit intérieur brut. Et ce qui ressort d'ailleurs de cette étude du Cevipof, c'est qu'une bonne partie de ces maires-là avancent comme raison du fait qu'ils ne se représentent pas. Une des raisons, c'est le manque de personnel et le manque de moyens budgétaires. Donc c'est des communes qui sont de plus en plus étranglées financièrement, avec de plus en plus de compétences et avec des fonctions essentielles qui sont évidemment qui parlent aux citoyens directement, quand c'est les crèches, les écoles primaires et maternelles, les centres de loisirs, etc. Bon. Et donc ces fonctions essentielles, ils ont de plus en plus du mal à les soutenir, à les assumer, voilà. Et par ailleurs, c'est vrai que quand on est une commune rurale ou une petite commune ou une commune défavorisée, pour ma part, je suis dans le 93, j'habite dans le 93, donc quand on est dans des communes de ce type-là, où il y a des besoins supplémentaires par habitant, ce sont par ailleurs des communes qui ont relativement moins de moyens par habitant et qui ont du mal, du coup, à répondre à tous ces problèmes-là. Et donc, et on a particulièrement, je pense, un problème avec la politique d'Emmanuel Macron, avec la suppression de la taxe d'habitation, qui certes, on dit, va être compensée par une dotation budgétaire, mais dont on sait qu'elle sera sans doute fragile.
Et puis, c'est une perte d'autonomie, parce qu'il faut négocier, enfin, des contrats État-collectivité locale.
Et puis la suppression des emplois, de 120 000 emplois aidés, quoi. Et ça, c'est énorme pour les collectivités locales.
En tous les cas, une petite question que je vais vous poser rapidement, petit sondage autour de la table. Il y a une maire, celle de Paris, qui retrouve un petit peu une certaine forme d'énergie. C'est Anne Hidalgo, qui souhaite piétoniser le centre historique de Paris. Je voudrais avoir votre regard sur cette idée. Tiens, je commence par vous, Yannick Ali, c'est une bonne chose?
Écoutez, moi, je ne veux pas demander, faut voir, mais c'est quand même une capitale, Paris. C'est pas seulement une ville touristique pour des touristes ou des familles en balade. Donc, peut-être qu'il y a certains quartiers piétonniers, effectivement, hein, qui font leur preuve, mais piétonniser l'ensemble du centre de Paris,
historique.
C'est quand même... historique, oui, mais Paris est une ville historique en soi. Alors, faut voir le périmètre, alors, dans ce cas-là. Hein. Mais enfin, ne pas oublier quand même que Paris est la capitale de la France et le poumon économique de la région d'Île-de-France et une des plus grandes capitales européennes.
Agathe Cagé, sur cette idée qui serait mise en exécution si d'aventure elle était réélue.
C'est une proposition qui a la force de la cohérence avec la politique qui a été conduite jusqu'à présent et avec les annonces d'Anne Hidalgo en faveur de Paris, tête de proue de la transition écologique, même si ça rendrait compliqué un certain nombre d'activités au centre de Paris et un certain nombre de modes de déplacement, mais ça a la force de la cohérence. On dit, hein, les blues des communes, parce qu'il y a des communes tellement différentes, vous avez 20% du gouvernement qui va se présenter à la mairie de Paris. Derrière, la réalité quand même de la gestion des communes, c'est la réalité de la gestion des villes moyennes, des petites villes et des communes rurales.
Pascal Richet, la récente décision de la métropole du Grand Paris, au fond, de faire renouveler les véhicules les plus polluants, donne raison à Anne Hidalgo, finalement?
Oui, je pense que sur le plan écologique, elle a eu une politique cohérente depuis le début. Après, ce qu'elle a fait sur le Vélib, bon, moi, je suis un déçu du Vélib, mais là, je commence à m'y remettre au nouveau Vélib, donc on va voir. Pour ce qui est, en revanche, des quartiers piétons, moi, j'aime pas du tout l'ambiance des quartiers piétons des capitales, quoi. Je trouve
pour
ça.
Pour vous, c'est pas une
très j'aime bien bonne idée. Ouais. Quand c'est semi-piétonnier, quoi. Quand quelques voitures passent, et voilà. Mais en revanche, quand c'est uniquement piétonnier, ça donne une ambiance de, je sais pas, de tristesse.
Aurélie Trouvé, cette idée de piétoniser le cœur historique de notre capitale.
Mais comme vous dites, c'est cohérent. Bon, moi, je suis persuadée qu'on n'a pas le choix de la transition écologique. Et ça revient. Moi, je trouve que ça rejoint le premier sujet sur les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il faut s'attaquer aux tout voitures, mais il faut le faire de façon à ce que chacun puisse aussi avoir accès à d'autres. Donc, en rendant difficile l'accès de Paris à la voiture, il faut aussi qu'en même temps, il y ait des transports en commun qui soient beaucoup plus efficaces. Et je pense notamment au pourtour de Paris et à ceux qui sont en banlieue. Donc, il faut une politique nationale efficace de transport en commun.
Et finalement, voilà. L'approche des problématiques, vous le voyez, est globale. Yannick Hanimi, la une du Parisien aujourd'hui en France.
Jean-François, si vous allez chez votre médecin et qu'il vous donne un antibiotique, si vous avez lu Le Parisien ou si vous lisez Le Parisien de demain, vous pourrez dire non, monsieur le médecin, je ne veux pas être soigné avec des antibiotiques et je vous en fais la preuve.
Ah, je vais dire ça. Pascal Richet, la une de l'Obs.
Alors là, voilà, pouvoir d'achat, qui perd, qui gagne. Donc on répond à cette question. Quels sont les Français qui ont le plus perdu avec la mesure Macron et ceux qui ont le plus gagné?
Yannick Hanimi, Agathe Cagé, Aurélie Trouvé, Pascal Richet, merci d'avoir été nos invités ce soir. Je vous retrouve pour ma part demain pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonsoir.